Bénédicte Henri Réval, une exécution à San Francisco. La découverte des mines d'or en Californie, cette partie conquise de l'Amérique du Nord sur les côtes du Pacifique par les habitants des États-Unis, avait attiré sur ce point du globe une quantité d'émigrants dont le nombre affluait tous les jours. Les aventuriers de tous les pays, ceux qui avaient le désir de se procurer dans le plus bref délai, par tous les moyens possibles, la richesse et le bien-être, sans recourir au commerce ou à l'industrie, tous les hommes à grande passion, tous les révoltés de la société des différents états du monde civilisé, les gens sans aveu, avides de trouver l'inconnu et de pouvoir pêcher en eau trouble, se ruèrent vers les Placeras dès que la nouvelle de ces gisements aurifères parvint à leurs oreilles. Les villes de Sacramento et de San Francisco devinrent, à dater de ce moment-là, le rendez-vous d'une population criminelle ou prête à le devenir. Nulle part, sur le reste de la terre, on eût pu rencontrer plus de scélérats réunis. Les conséquences de cet état de choses se réalisèrent dans un court espace de temps et le plus grand désordre régna dans ce pays conquis. Il ne se passait pas de jour où des vols et des assassinats ne fussent signalés. La vie était à chaque instant exposée au plus grand danger, et les autorités établies se voyaient incapables de protéger leurs concitoyens et de punir les crimes de quelque nature qu'ils fussent. Peu à peu, cependant, la première invasion de ces chercheurs d'or sans feu ni lien fut suivie par la venue de gens plus respectables et plus soumis aux règlements de la société qui voulaient essayer de faire du commerce. Ces nouveaux arrivés comprirent qu'il fallait se ranger du côté de la loi pour se débarrasser des criminels au milieu desquels ils se trouvaient. Comme l'état de choses existant ne pouvait continuer, les hommes les plus sérieux et les plus hardis se réunirent pour faire respecter la loi. Et l'opinion publique se montrant en faveur de cette résolution, il fut décidé que le vol et le meurtre seraient désormais punis avec autant de sévérité que dans les États policés de l'Union américaine. Cette façon de procéder d'une société se faisant justice elle-même, au lieu et place des tribunaux constitués à cet effet, est connue aux États-Unis sous le nom de « loi du lynch », du nom d'un Américain nommé Lynch qui, le premier, dans le pays des frontières, avait inauguré ce genre de punition contre les ennemis des gens honnêtes établis comme pionniers dans ces parages voisins des Peaux-Rouges. Bien souvent, la justice populaire s'était ruée sur des gens complètement innocents et reconnus comme tels après leur exécution sommaire. Mais en Californie, le cas n'était pas le même. On se trompait rarement et puis les juges appartenaient à la classe honnête de la population. C'était eux qui étaient les acteurs, ils agissaient en plein jour en donnant toute la publicité possible à la sentence irrévocable. En Europe, nous nous targuons de respecter la loi et quelque horreur que nous approuvions en présence d'une exécution, nous laissons la justice suivre son cours. La raison en est que nous sommes persuadés que la justice sait et saura nous protéger et nous venger au besoin. Mais en Californie, ce n'était pas la même chose. Les gens honnêtes de ce pays étaient convaincus que la loi n'était pas assez puissante pour les protéger. Ils en étaient donc arrivés à cette conclusion qu'il fallait se défendre sérieusement contre tous ceux qui en voulaient à leur propriété et à leur vie, et qu'il n'y avait aucune sécurité dans les exemples frappants et qu'il fallait terrifier les criminels. Nous avons cru devoir expliquer la situation pour atténuer quelque peu les horreurs de ces récits de jugement et d'exécution sommaire de San Francisco et du pays de l'or. On n'oubliera pas non plus que ces juges irréguliers ne prononçaient leurs sentences qu'après des débats sérieux, où la procédure était la même que dans les cours des autres pays civilisés. Actes d'accusation fondés sur les évidences, liberté de défense de la part de l'inculpé, plaidoyer l'avocat, etc., etc., ainsi que cela se pratique d'ordinaire. Quoi qu'il en soit, ces jugements prononcés au XIXe siècle, au milieu d'un État faisant partie de la Grande République américaine, offraient un intérêt des plus curieux. Dans le récit qui va suivre, les principaux acteurs se composaient de 200 citoyens de San Francisco qui s'étaient constitués en comité de vigilance dans le but avoué d'empêcher tout voleur, assassin ou incendiaire d'échapper à la punition méritée, soit par la faiblesse des juges réguliers, soit par le peu de solidité des prisons, l'insouciance et la corruption de la police ou l'insuffisance des moyens de répression. Le misérable qui fut reconnu coupable avait volé un coffre-fort rempli d'argent. On l'avait découvert au moment où il emportait la caisse de fer enveloppée dans un grand sac. Quand il s'était vu suivi, il avait sauté dans une embarcation en cherchant à s'éloigner à force de rames. La personne lésée s'était aperçue du larcin et immédiatement avait couru à la poursuite de son détrousseur, suivi par un grand nombre de bateliers qui n'avaient pas tardé à rejoindre l'homme qui emportait le coffre-fort. Ce dernier, se voyant pris, avait jeté la preuve de conviction à la mer. Mais tandis que quelques personnes s'emparaient du voleur, d'autres repêchaient la caisse de fer. Ramené vers le rivage, le coupable fut remis aux mains des membres du conseil de vigilance qui l'entraînèrent dans la salle de leur délibération. Il fut jugé par 80 membres présents à huis clos et convaincu de vol, se vit condamné à être pendu le soir même à Portsmouth Square. Tandis que le tribunal était rassemblé, les habitants de San Francisco s'étaient rassemblés autour de la maison qui servait de lieu de réunion, et la cloche de la remise pour la pompe d'incendie sonnait à pleine volée afin d'apprendre à la ville ce qui se passait au sein du comité de vigilance. La populace, se montrant fort excitée, plus excitée que de coutume même, certains assistants reprochaient aux membres de ce tribunal imposé de délibérer à huis clos. Mais quand on annonça au public la sentence de mort décrétée contre le criminel, un sentiment de satisfaction générale éclata de toutes parts. Quelques personnes, cependant, exprimaient l'opinion que la mort était un peu sévère pour une pareille offense envers les lois de la société. Dès que la sentence eut été signée, la cloche de la pompe à incendie ne cessa de sonner le glas de mort pour annoncer la fin prochaine du condamné. Le capitaine des hommes de police, nommé Benjamin May, se présenta à la porte de la salle d'audience et réclama le prisonnier qui naturellement lui fut refusé. Quoiqu'il se fût fait accompagner par une escouade de policemen, il vit bien que ni lui ni ses gens ne réussiraient à s'emparer du coupable. Il était 1 heure après-midi quand un nommé Samuel Bonneau se montra sur le seuil de la salle d'audience et vint annoncer la sentence rendue à l'unanimité contre le voleur qui, malgré l'évidence, avait constamment nié sa culpabilité. Le condamné se nommait John Jenkins, était originaire de Londres. Samuel Bonneau ajouta qu'on lui avait donné 1 heure pour se réconcilier avec Dieu et qu'à cet effet, on avait mandé près de lui un ministre protestant du nom de James Hinnes. La foule approuva par ses cris la décision du comité de vigilance et dès ce moment, le tumulte arriva à son comble car chacun voulait donner son avis et le faire prévaloir. Nous devons ajouter que la majorité des citoyens de San Francisco était en faveur de l'exécution. Tandis que ceci se passait au dehors, le prisonnier était gardé à vue avec rigueur, mais avec tous les égards possibles. On lui avait même offert des cigares. Le pasteur protestant était accouru le premier, à l'appel qu'on lui avait fait, et il exhortait le condamné à prier avec lui. Nous devons dire, pour être exact, que toutes les paroles du révérend docteur Innes étaient prononcées en pure perte. Le malheureux à qui il s'adressait ne lui répondait pas. Toute son attention semblait fixée vers la porte d'entrée, car il s'attendait à se voir délivré par les gens de la police municipale. Au moment où 2 heures sonnaient, et les portes de la salle du comité de vigilance s'ouvrirent, et le condamné à mort fut amené devant la populace. C'était un homme de haute taille, d'une force herculéenne, dont le visage semblait fait pour inspirer la terreur. Si épouvantable que fût sa situation, il paraissait de sang-froid, en fumant un cigare de l'air le plus placide du monde. Ses mains, attachées derrière son dos, étaient maintenues par 2 hommes armés, accompagné d'un grand nombre d'individus, de telle façon que la fuite était réellement impossible. C'est ainsi qu'il parvint, en traversant la foule, jusqu'au milieu du square public. Une fois là, une clameur immense éclata de toutes parts et des vociférations étranges se firent entendre. C'était un spectacle effrayant. La lune, obscurcie par les nuages, était entièrement caché et l'on n'y voyait que grâce à la lueur des torches. Quelques individus s'étaient hissés sur l'arbre de la liberté pour y attacher une corde destinée à la pendaison. À ce moment-là, un cri se fit entendre. « Ne le pendez pas à cette noble potence !» disait quelqu'un. « C'est vrai, conduisez-le vers la vieille maison !» hurla un autre assistant. Et ce fleuve d'êtres vivants entraîna le condamné vers un adobe, maison de pisaille, en ruine, qui avait autrefois servi de douane. On hissa une poutrelle à l'une des fenêtres, et quand il était solidement fixé, on passa une corde solide à une poulie. Tandis que ceux-ci se préparaient, les hommes de la police faisaient de vains efforts pour s'emparer du condamné, mais ils se virent repoussés de toutes parts. S'ils eussent persisté dans leur projet, on les aurait reçus à coups de revolver, quoique un certain nombre d'assistants fût opposé à cette exécution sommaire et se montra disposé à favoriser les efforts de la police. Le prisonnier, ballotté entre ceux-ci et ceux-là, se mourait de peur. Tout à coup, il sentit un nœud coulant glisser autour de son cou, et il fut enlevé par une vingtaine de bras à 10 mètres au-dessus du sol. La secousse avait été mortelle, et après quelques balancements, quelques trémoussements nerveux, le criminel, victime de la vengeance populaire, n'était plus qu'un cadavre. Tandis que ce cadavre restait ainsi suspendu au-dessus de la foule, la terreur s'était emparée des exécuteurs eux-mêmes, qui se dispersèrent lentement. Quelques-uns, les plus endurcis, restèrent seuls jusqu'au lever du jour, près du lieu de l'exécution. À 6 heures, le marshal Makrovski se rendit vers la dôme, coupa la corde et fit emporter le corps de feu John Jenkins, qui fut déposé à la salle des morts. Ainsi se passa la première exécution faite d'après la loi de Lynch à San Francisco. Dans les circonstances particulières où se trouvait la société californienne, à l'époque où nous reporte le fait qui précède, on peut, en quelque sorte, excuser ce jugement sommaire. Mais on ne peut que bénir les lois justes et régulières qui régissent le pays où nous vivons, car on vit paisiblement en Europe sous la protection d'une police destinée à prévenir le crime et de juges prêts à le punir, avec toute la sévérité nécessaire.